Chapitre 5. Premier épisode. Où était-ce? Impossible de me souvenir de l'endroit, de son nom, ni de sa topographie. Je sais seulement que nous étions encore dans le midi, car la nuit était chaude et le ciel d'une limpidité, d'un bleu profond, criblé d'innombrables étoiles. En outre, le rivage présentait les coteaux de vignes, mais de vignes taillées bas comme chez nous, et des plants de figuiers qu'on ne trouve plus au-dessus d'une certaine zone. Le Bonnardel s'était rangé au quai, le soir venu, car la navigation du Rhône, avec son courant farouche, ses passes innombrables et dangereuses, est impraticable de nuit. Toute liberté était laissée aux voyageurs de descendre à terre, à la condition de se retrouver à bord vers 5 heures du matin pour le départ. Fatigué de toujours parler, de raconter les aventures de mer dont ma mémoire enfantine était bourrée, j'avais entraîné dans les champs avec moi tout mon auditoire habituel d'artilleurs, de zouaves, de chasseurs de Vincennes. C'étaient des gens du Nord pour qui tout semblait nouveau dans le pays, la façon de faire les meules, de semer, de traiter la vigne. Ils avaient pourtant traversé ces plaines pour aller là-bas, vers la Crimée, en chemin de fer, avec leurs pauvres yeux de Dumanet qui ne voient rien, qui ne regardent rien, et rapportent d'un voyage autour du monde seulement des souvenirs de jours de bloc, de rabiot ou de quelques malaises à l'hôpital. Il n'est pas étonnant de leur entendre tenir des propos tels que ceci. À Jérusalem, il y avait un nommé Bidou qui a pris la cuillère du sergent et ne l'a rendu qu'à Jaffa, ce qui a fait des affaires. À Gallipoli, le capitaine m'a flanqué 3 jours de consignes. Ou bien ils écrivaient ainsi. Constantinople, 2 septembre. Bivouaqué tout le jour devant la mosquée de Sainte-Sophie. Ces brevets qui étaient de semaine. Manger un ratat de mouton au faillot et aux tomates. Épatant. Damas, 6 octobre. De grand garde dans les lauriers roses. Perdu ma brosse à cirage. 2 jours de bloc. Et ainsi de suite. Donc, un soir, pendant que 2 hommes de quart veillaient sur le pont éclairé d'un énorme fanal rouge, jusqu'à 5 heures du matin où la cloche placée à l'avant du bateau sonnait l'embarquement et le départ, j'avais entraîné toute ma suite de chasseurs de Vincennes, d'artilleurs et de zouaves dans une aventureuse expédition que je qualifiais à l'algérienne du nom de Razia et qui avait pour but de faire savourer à mes pauvres troupiers convalescents ces grappes noires, énormes, comme un pays de Canaan, ces figues, ces jujubes dont les longues baies rouges dansent dans la pâle verdure des branches et qui excitaient leur envie fiévreuse et leur imagination décuplée par ma verve méridionale. Je ne sais combien dura notre expédition, à quelle heure fut le départ, à quelle heure le retour. J'ai seulement le souvenir d'un clocher invisible sonnant au lointain et de quelques lumières qui clignotaient devant nous, sur la hauteur, subitement éteintes. Tout dormait. De temps en temps, un appel de chouette, un caillou roulant sous nos pieds dans les chemins montants et ravinés, ou encore le rire étouffé de l'un de nos compagnons, auquel j'avais recommandé le plus absolu silence, moi, le chef. Le chapeau sur l'oreille, un souple et cinglant cep de vigne à la main, en signe de commandement, je marchais à la tête de la troupe. Léonce, près de moi, suivait un peu en arrière, silencieux et léger comme mon ombre. Étrange ce petit Léonce, ardent, hardi, prêt à partager toutes mes folies, toutes mes fantaisies, il gardait en toute occasion, dans la pâleur de sa jolie figure, aux yeux de fièvre, ce mystérieux sourire en coin, d'une amertume, d'une mélancolie de pressentiment si singulière. Oh, qu'il m'a troublé et intrigué longtemps, ce sourire de mon ami, jusqu'au jour où il me fut permis de le comprendre. Mais nous ne sommes pas encore à ce jour sinistre. Sachez seulement que si je ne parle pas plus souvent de ce gentil compagnon, c'est un peu sa faute. Lui non plus ne parlait guère. Il appartenait à cette race de méridionaux silencieux que j'ai déjà signalé, plus impétueux, plus violents, plus mobiles encore que tous les autres, parce qu'ils n'ont pas l'éloquence pour exutoire, pour soupape de sûreté. D'une imagination dévorante, les rêves, les projets insensés que mon cousin Léon se ruminait sans cesse, même à cet âge, ne se trahissait que par un geste, un mot, jeté brusquement, et dont il ne donnait jamais l'explication. Je me rappelle qu'une nuit, au cours de notre beau voyage vers Lyon, étendus sur le pont tous les deux, nos fronts levés au ciel, nos mains croisées derrière la tête, je l'entendis murmurer à mi-voix comme en extase « Oh, les îles Borromée !» Tout de suite, je crus voir les étoiles s'enfler, s'allonger, ruisseler en larmes, sans que j'aie su pourquoi, pas plus qu'il ne savait lui-même comment lui venait cet appel aux îles embaumées des axes italiens. Par exemple, la nuit de notre expédition, ni Léonce ni moi n'étions dans des dispositions assez poétiques pour nous émouvoir de si peu. Nous avions l'un et l'autre des âmes et des tournures de forbans, de vrais forbans, suivis d'autres forbans que nous menions à l'assaut des vignes, à la conquête des figuiers. « Des muscats, mes enfants, ce sont des muscats !» m'écriai-je tout à coup en me relevant, une grappe dans chaque main. Et je n'avais pas fini ma phrase que toute la vigne était ravagée, comme si un nuage de sauterelles venait de crever dessus. On entendait dans l'ombre des exclamations étranglées. « Maladie, que c'est bon ! Quel sucre !» Et les grains savoureux et durs qui craquaient sous la dent. Plus loin, Léonce grimpait sur un figuier, jeté dans les képis et les chéchias, bonnet rouge des oives, tendu vers lui, des poignées de grosses figues à chair saignante dont nos troupiers ne se rassasiaient pas, mais auxquelles nous autres du midi, nous préférions les figues blanquettes et les bourgasseaux, toutes petites et juteuses, vrais sachets de soleil, dans leur peau fripée et fine comme de la peau de Suède. « Mais où les trouve-t-on, ces figues merveilleuses que vous dites, mon officier ? Il n'y en a donc pas par ici ?» Juste au moment où l'un de mes zouzous me jetait cette question, nous longeons un vieux mur décrépit, tout mangé d'herbes et de ronces, dont la crête, éboulée çà et là, laissait voir dans une cour de masse, au sol battu, de ces grandes clés de roseaux que nos paysans appellent des canisses et sur lesquelles séchaient des milliers de blanquettes pour l'hiver. D'un geste de mon cep de vigne, je les montrai aux zouaves et, joignant l'action à la parole, je sautai par-dessus le mur avec ce cri « À l'abordage !» Jour de Dieu, quelle pierie ! On s'emplissait les mains, les bouches, les képis, les poches. Soudain, les flammes jaunes de deux ou trois falots, se balançant tout près de terre, trouèrent l'ombre profonde de la cour, en même temps que des voix furieuses nous menaçaient et excitaient contre nous deux grands chiens de montagne, aboyants et bondissants. Il fallait voir l'officier de marine sauter par-dessus la muraille, tous les troupiers sur ses talons. L'obscurité, l'inconnu des chemins nous gênaient pour courir. Et si l'ennemi ne nous mit pas la main dessus tout de suite, c'est qu'il nous devina trop nombreux et qu'averti du rapatriement des soldats par le Bonnardel, il savait toujours où nous prendre le lendemain matin. À bord, quand nous rentrâmes, haletants et suants, les feux étaient éteints, tout le monde endormi, excepté les deux hommes de quart et les deux petits montpelliérains qui, n'ayant osé nous accompagner par caponnerie, épiaient notre retour avec un vague espoir de catastrophe. « Oh, de ces monstres ! De ces monstres !» disaient à l'unisson leur voix naïvement envieuse, pendant que je leur chuchotais dans un coin obscur du salon le récit déjà très enjolivé de nos aventures et que nous entendions les troupiers rentrer les uns après les autres en s'esclaffant, gagner l'avant sur la pointe du pied, comme des écoliers qui se glissent dans le dortoir après une escapade nocturne. Mais à notre réveil le lendemain, bon Dieu ! À 5 heures, encore enveloppée des brumes blanches du fleuve, la cloche avait sonné ainsi que d'habitude. Les yeux entr'ouverts une minute, je me disposais à les refermer en écoutant les dernières vibrations sonores sur le tremplin de l'eau courante et songeais en moi-même avec délice « Tu as encore 2 bonnes heures de sommeil devant toi !» Lorsqu'à ma grande surprise, le Bonnardel, au lieu de quitter le rivage, sitôt le dernier coup, se tint immobile au ras du quai. Des pas couraient sur le pont, des éclats de voix irrités, brutales, m'arrivaient à travers les cloisons. Que se passait-il donc? Ces voix vengeresses, il me semblait déjà les avoir entendues, il n'y avait pas longtemps, tout au bout d'une grande cour noire. Sans doute, les voleurs de figues étaient découverts et l'on venait leur réclamer le prix d'un nombre incalculable de bourgasseaux. Je n'en doutais plus quand, par la porte du salon entrebâillée, un homme jeta mon nom. Le capitaine Reboul me priait de venir lui parler tout de suite. Pas commode, le capitaine. Encore plus brutal, sauvage qu'à notre dernière rencontre. De sa casquette en peau de lapin aux oreilles rabattues, jaillissaient les flèches de ses petits yeux, sa barbe rousse, toute retroussée, et d'épouvantables jurons en langue marseillaise. À force de crier, sa voix n'était plus qu'un râle. Mais plus impressionnantes encore que sa colère, m'apparaissaient les mines blafardes, chassieuses et piteuses de ses malheureux troupiers, brusquement arrachés au sommeil pour comparaître en face de cet énergumène et subir les revendications d'un garde champêtre avec plaques, sabres et képi galonnés, venant réclamer justice au nom de sa commune mise à sac. Me voyant émerger à mi-corps de l'écoutille, le père Reboul se tourna vers moi violemment. « Ah, vous voilà, vous ! Alors, c'est vous qu'ils appellent l'officier ? Officier de quoi, je vous le demande ? Eh bien, il est propre, l'officier ! Abuser de la naïveté de ces pauvres diables pour leur faire croire que les figues, les raisins, les jujubes, les grenades sont à la disposition du premier passant venu, si ce n'est pas honteux. Vous savez que je viens d'en payer pour 22 francs 50 centimes, et encore le brave Mitifio, des pistolets que je connais depuis l'enfance, m'a passé la chose au meilleur compte. 22 francs 50 centimes, vous entendez ? 22 francs 50. » L'élève de Varna releva la tête et portant fièrement la main à son gilet. « Je ne demande qu'à vous rembourser, monsieur le capitaine. »« Je n'en doute pas, jeune homme, » dit le père Reboul, subitement radouci, car il avait craint un moment de ne pas rentrer dans ses fonds, les passagers des premières à bord du Bonnardel n'étant en général guère plus argentés que ceux du pont. « C'est égal, » ajouta-t-il d'un ton de blague. « Si vous avez pris le bateau du Rhône par économie, avec quelques soirées de ce genre, votre place risque de vous coûter plus cher qu'un wagon. » Au fond, j'étais tout à fait de son avis, moi qui savais combien mes chers parents avaient dû faire effort pour mettre quelques louis dans ma poche. Mais comment convenir d'une pareille détresse devant les Montpelliérains, les deux Lyonnaises, l'Anglais et ses poussins, tous curieusement échelonnés autour de moi sur les marches étroites de l'escalier du salon. Vanité des vanités. Dire que pour entendre encore les murmures d'admiration dont les militaires avaient salué au passage les 22 francs 50 centimes et le geste emphatique qu'il étendait au capitaine, j'en aurais, je crois bien, donné deux fois autant. Soudain, l'avant sonna un second coup, le bon celui-là. La sirène mugit, des paquets d'écume blanche tourbillonnèrent sous les roues du navire. « Zou, en route !» cria la voix enrouée du capitaine. Et le village s'éloigna, rapetissé, emportant ses champs de mûriers et d'arbres à fruits, déjà tout embrasés de soleil, tout secoué de la crécelle des cigales, sous la garde de pistolets qui remontait un petit chemin entre les vignes, le dos courbé, le pas allègre, faisant sonner mon argent dans ses deux mains.